Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir devant notre micro Gilles Stassard. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Merci à vous d'être devant le micro de l'émission littéraire de Radion pour deux ouvrages. Comment vous présenter d'abord à nos auditrices et auditeurs? Vous êtes écrivain, vous êtes un enfant du pays, vous êtes un Iconnais, né à Vézelay ou à côté de Vézelay.
Oui, voilà.
Vous êtes le fils d'une artiste.
Oui.
Vous êtes vous-même artiste, cuisinier. Est-ce que je peux vous demander, Gilles, de nous glisser votre carte de visite?
Eh bien, je suis... je travaille autour de l'alimentation, je travaille autour de la cuisine, à la fois, je dirais, dans mes livres, puisque mes livres ont toujours plus ou moins un rapport avec l'alimentation et avec... ce que l'on mange, ce que l'on ingère, mais aussi je prépare réellement des plats, puisque je suis cuisinier, j'ai travaillé comme cuisinier dans plusieurs établissements.
Vous avez eu aussi un maître voilà, assez remarquable, tout de même, Marc Menot.
Voilà, et j'ai travaillé avec Marc Menot, notamment à l'occasion d'un gros livre qui s'appelle La Conversation, qui est un livre en noir et blanc qu'on a réalisé pendant 5 ans ensemble. Et qui est aussi un peu, je dirais, le premier épisode, dont 600 degrés est le deuxième épisode, voilà.
Alors, ce soir, il va être question de deux ouvrages, comme vous me le disiez avant que nous ne commencions à enregistrer, un gros livre noir et un petit livre blanc. D'abord, peut-être coup de projecteur sur le petit livre blanc, dont on ne parlera pas beaucoup ce soir.
Oui.
Est-ce que je peux vous demander, Gilles, de présenter Tribulation plastique, qui est une fable méchante?
Donc, Tribulation plastique est une satire un peu que j'ai rédigée comme ça, pour m'amuser en fait de je dirais des travers de notre monde. On a beaucoup dénoncé, on est toujours en train d'essayer de trouver des solutions à nos grands problèmes d'environnement, nos grands problèmes de société. Et voilà, j'avais envie de rire de tout ça. Puisque j'ai l'impression qu'on a du mal, à trouver la voie de sortie de l'écheveau dans lequel notre société se plonge.
Alors en fait, Tribulation plastique est l'histoire des déambulations d'un petit canard en plastique qui s'est échappé d'un conteneur lui-même tombé à l'eau. Vous dites d'ailleurs au tout début de votre texte qu'il y a 10 000 conteneurs qui tombent comme ça au fond des océans chaque année.
Oui,
parce que les cargos sont trop chargés.
C'est ça. Chaque jour, il y a des conteneurs qui tombent à l'eau.
Il y a plein de petits trésors au fond des océans dans les conteneurs.
Oui,
quand ils ne s'ouvrent pas.
Voilà. Souvent ils s'ouvrent. Souvent il y a. C'est très très courant que des bateaux de course rentrent dans des conteneurs. Donc on a toujours les Vendée Globe et les marins qui ont peur justement des conteneurs, des choses qui flottent comme ça entre deux eaux. Donc voilà, et là c'est l'histoire d'un conteneur de jouets et l'un des personnages comme ça, un de ces canards en caoutchouc qui s'échappe,
qui remonte à la surface est balancé au gré des courants et ouais. qui voyage
qui passe d'un univers à l'autre.
Donc c'est Tribulation plastique au pluriel, c'est aux éditions du Rouergue et c'est de notre invité Gilles Stassard. Alors Gilles, on passe au gros livre noir qui est à nos côtés et qui a pour titre 600 degrés. C'est aux éditions du Rouergue, c'est un beau livre, ce qu'on appellerait un beau livre, livre de photographie. Des photographies, alors le photographe s'appelle
Hans Gesinger.
Les recettes, c'est la cuisine de Franck de Carlo, la cuisine de Franck de Carlo. Et puis vous assurez les textes qui apportent d'ailleurs un éclairage extrêmement essentiel. Parce que ce livre est un recueil de photographies autour de 600 degrés. Alors, pourquoi 600 degrés?
Donc, ce livre est un livre autour de la, C'est un livre qui se situe à plus, enfin, qui se construit.
C'est un livre qui nous met le feu.
Voilà, ça, c'est un livre autour du feu, à la fois le feu de la cuisine, mais par extension le feu du progrès, le feu de la modernité, le feu de l'industrie.
Le feu amoureux aussi.
Voilà, hein, également le feu amoureux, mais aussi le feu imaginaire. Donc, c'est un livre qui se constitue un peu dans l'esprit de Bachelard et de la psychanalyse du feu. C'est un livre qui raconte comme ça les aventures d'un personnage. C'est, le texte est une fiction, mais le personnage... Donc le personnage qui raconte cette histoire est un personnage de fiction, mais tous les personnages qui sont cités dans l'histoire sont vrais. C'est-à-dire que c'est seulement le narrateur qui est
même Sylvia est authentique.
Voilà, Sylvia est authentique, mais seulement le personnage comme ça de narrateur est un personnage de fiction.
J'ai donc dit beau livre que ce 600 degrés, couverture noire rugueuse qui rappelle la surface d'une braise un peu éteinte, avec cette ligne rouge sur le côté, cette éraflure rouge qui effectivement nous brûle et qui invite à tourner les pages. Alors, Gilles Stassin, je vous l'ai dit, au premier abord, quand j'ai découvert votre ouvrage à la librairie Voileau à Avallon, je tourne les pages et je vois des seaux de sang et de viscères, je vois des casseroles bouillantes avec des abats, des choses étranges, je vois des animaux abattus, des porcelets, je vois aussi de la pâte à pizza, je vois des brasiers, je vois des braises, je vois une marmotte éventrée. Bref, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette boucherie? Et finalement, bien sûr, les images surprennent tout de même. Le beau est toujours bizarre, disait Baudelaire. Et en lisant les textes, il y a toute une approche poétique, drôle, parfois polémique, parce qu'il y a la dénonciation de cette modernité qui, par exemple, a anéanti la culture des Inuits, par exemple. Vous faites une dénonciation de cette modernité qui, malheureusement, a fait disparaître des modes de vie et des civilisations. Écriture poétique et écriture aussi très érudite. Mais tout un mélange comme ça, un texte extrêmement riche qui, à mon avis, ne s'est pas écrit d'un seul jet, je pense.
Non, c'est un travail. Ce livre, on a mis... j'ai mis 10 ans à rédiger le livre et à lui donner une forme. Parce qu'en fait, c'est pas un livre documentaire. C'est un livre qui raconte des histoires, mais c'est pas un livre documentaire. C'est pas un livre... Donc il y a à la fois une dimension de reportage, il y a des photographies de Hans Kissinger qui représentent les civilisations, les peuples que l'on a rencontrés. Mais l'histoire se constitue à travers des voyages, mais aussi à travers d'autres livres et d'autres sources d'inspiration.
Mais vous vous êtes rendu en Argentine,
oui,
New York, tous les lieux dont il est question, même le grand froid.
Oui, on a fait
la Mongolie. Vous y êtes allé.
Ouais, toutes les images ont été produites spécialement pour ce livre. On les a conçues ensemble. On a organisé les séances de photographie à l'avance. On a pris des contacts. On a essayé par les délégations françaises, les ambassades, et on a essayé de rencontrer des gens comme ça pour pouvoir à distance organiser toutes ces séances de prise de vue qui ont été imaginées pour ce livre.
600 degrés, tel est le titre de l'ouvrage que signe notre invité Gilles Stassard, un très beau livre illustré et disponible aux éditions du Rouergue. Première escale en chanson avec Jane Birkin, voici Ex-Fan des 60s. Excellente soirée sur Radio, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi sur votre radio locale.
Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan fin des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animals, des moods, des blues? Séparés, McCartney, George Harrison et Ringo Starr et John Lennon. Ex-fan des 60s, petite baby doll, comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex.
Nous retrouvons Gilles Stassard, notre invité, auteur de l'ouvrage intitulé 600 degrés aux éditions du Rouergue. 600 degrés, c'est la température à partir de laquelle les braises commencent à rougeoyer. C'est un livre sur l'histoire du feu, le feu nourricier, le feu dans tous ses états. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur votre radio locale et vous êtes à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. J'ai dit au début de notre entretien, Gilles Stassard, combien j'avais été surpris par la crudité des entrailles et des bêtes égorgées dont les clichés sont reproduits dans votre livre. Avez-vous, pour votre part, été choqué sur le terrain par ce que vous avez vu et découvert?
On n'est pas choqué parce que déjà de la démarche, le voyage nous emporte à l'autre bout du monde, nous emporte dans un autre contexte c'est très dépaysant et de se retrouver comme ça avec les bergers mongols vous emmène dans leur quotidien, donc c'est l'animal qui est représenté en fait. On n'est plus dans une logique de barquette comme ce qu'on connaît aujourd'hui, où en fait notre rapport à la viande, notre rapport à l'alimentation, il passe par un rapport marchand. On n'a plus du tout de contact justement avec l'objet réel. Et du fait de vivre avec ces bergers, ces pasteurs, on est comme ça on est confronté à ça.
Alors, paradoxalement, le premier texte met en scène la découverte dans le permafrost, hein, dans le sol gelé, oui, des restes, des vestiges d'un mammouth, 23 tonnes d'ossements, et c'est le mammouth qui s'exprime, le mammouth devient narrateur dans une espèce de délire où le mammouth rêve de faire un tour en hélicoptère, puisque c'est un hélicoptère qui essaie de soulever, de décoller de son...
Mais c'est vrai, vous savez, ils ont sorti en fait, le mammouth parle d'un événement qui s'est vraiment produit, puisqu'ils ont extrait ce mammouth du sol. C'était une découverte d'ailleurs, et que le mammouth est en train d'être étudié dans des caves du Cap Chaka.
Et d'ailleurs, vous parlez tout de suite, c'est vraiment au tout début, vous parlez c'est une sorte d'oxymore, du feu gastronomique de la mort. Où le feu, vous rappelez un peu plus tard que le feu est salvateur, nourricier, protecteur pour l'homme des origines.
Absolument, ouais.
Et vous parlez de ce feu gastronomique de la mort. Très belle, très beau condensé, sémantiquement intéressant.
Oui, le feu gastronomique, c'est de la mort. C'est l'idée, justement, de la transformation, si vous voyez. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est la mort de l'individu, mais le début de la transformation est, entre guillemets, de la digestion qu'entreprend le sol. Tout ce qui est mortification des viandes, des faisandages, des choses comme ça. Et longtemps, les animaux qui ont été pris dans le permafrost ont servi d'alimentation
oui, aux hommes. Oui, en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'il semblerait que nos très, très, très lointains ancêtres laissaient un peu s'abîmer, putréfier les viandes pour les consommer plus facilement.
Absolument.
Puisqu'ils ne connaissaient pas encore le feu. Donc, le pourrissement, le fait que les chairs s'abîment était une façon, presque un premier mode de consommation.
Absolument, on peut même dire que c'est une façon de cuire d'ailleurs. C'est une forme de cuisson sans chaleur, mais c'est une forme de transformation dans le sens où la cuisson est une transformation de la matière alimentaire.
Et ce qui est absolument merveilleux avec votre texte, c'est que tout d'un coup vous nous rappelez le confort extrême dans lequel nous vivons et on essaie de se mettre en scène avec ces individus qui sont nos ancêtres, qui n'avaient pas le feu, et vous rappelez quelque chose qui nous échappe, c'est que quand même le feu est un grand mystère. Les origines du feu.
Ah oui, bah c'est ça, c'est la rêverie en fait. Vous voyez, c'est tout le mystère qu'il y a dans le feu qui permet justement de délirer et d'aller chercher des sources d'inspiration. Comme celle du livre sur 600 degrés.
Le trou dans lequel un homme de la préhistoire pouvait enterrer des aliments, par exemple une cuisse de renne, ou alors le début du trou aussi, c'est le début de la grotte, de la galerie, du four. Enfin, c'est aussi très intéressant de voir toutes ces étapes qui conduisent à... finalement, j'allais dire, au progrès de la vie de l'homme dans l'hygiène et dans l'alimentation.
Oui, c'est intéressant de regarder comme ça la vie des hommes à travers des siècles, de le condenser à travers un texte, de pouvoir associer ce trou dans le sol qu'on remplit d'eau et on met des pierres pour chauffer l'eau et en même temps de voir que c'est le même système que quand on plonge une résistance dans un mug qu'il y a finalement il y a de l'innovation mais pas tant que ça.
Vous écrivez d'ailleurs, c'est page 27, justement par rapport au trou rempli d'eau dans lequel on plonge des galets brûlants, donc pour chauffer l'eau. Je vous cite, cette technique est infaillible. Des paléontologues ont montré qu'il était possible de faire bouillir en 30 minutes plus de 500 litres d'eau. Je continue. Quand, à New York, dans son bureau, l'écrivain plonge sa résistance électrique dans son mug pour préparer un thé, il emprunte son geste au plus ancien des catalogues de pratiques alimentaires. De quel progrès parle-t-on ?
Ah oui.
Et alors, en vous lisant, en feuilletant ce 600 degrés donc de Gilles Stassard aux éditions du Rouergue, vous nous apprenez qu'au départ, le feu est finalement un outil de chasse. Le but, c'est d'effrayer les animaux de manière à les guider pour qu'ils tombent dans un gros trou où là, on va effectivement les assommer à coups de grosses pierres. Ouais. Le feu, au départ, a pour but d'effrayer l'animal.
Le feu, en fait, le problème du feu, c'est qu'il n'a pas vraiment de but, puisqu'en fait, il est libre à l'origine du monde. En fait, le feu, il est même quasiment à l'origine de la planète, puisque la planète est une espèce de boule de fusion, de matière en fusion. Donc, on est même assis sur un truc en fusion, une espèce d'énergie comme ça, qui de temps en temps pète les plombs. Alors, on a des tremblements de terre, on a des volcans, on a des affaires comme ça. Mais le feu, en fait, il est donc, il est libre. Et l'homme essaie de le domestiquer. Mais par exemple, c'est très intéressant, à Yellowstone Park, quand en 88, il y a eu le grand incendie, l'administration du parc, Yellowstone Park, c'est un parc où justement on essaye de le, que les animaux, que toutes les espèces de la faune et de la flore soient libres et soient tranquilles. Et le feu a été considéré comme, je dirais, un objet naturel, et l'autorité du parc a laissé brûler une partie du parc. Parce que le feu est à l'origine et se déplace et est un élément, je dirais, de la nature. Alors l'homme essaye de le domestiquer parce que le feu est très emmerdant, il est très dangereux, etc. Et l'homme essaye de le domestiquer pour pouvoir justement s'en servir. Alors la chasse, un objet de chasse, oui, c'est, entre autres.
Et je reviens à l'idée du feu utilisé par les premiers chasseurs. Vous écrivez, le chasseur se double d'un pyromane, nourrisseur et destructeur.
Ça, oui, c'est ça. Ça, c'est l'ambivalence du feu, qui est à la fois quelque chose qui permet le confort, qui permet la nourriture, et en même temps qui est très destructeur. C'est ce fil, en fait. Le feu est un fil.
C'est le feu des incendies, par exemple. Vous parlez de la menace des incendies dans la ville de New York du tout début du 19e siècle. Elle est là un peu aussi pour rappeler aux humains, certes, vous monter des édifices vers le ciel, mais le feu peut tout balayer. Il y a une sorte de destruction, purification par le feu qui rappelle à l'homme combien il est fragile aussi devant ses ambitions architecturales.
Oui, c'est toujours l'équilibre, en fait. Le feu, vous savez, c'est Prométhée, c'est vraiment toute la réflexion sur le mythe prométhéen l'engagement de l'homme et le pari que l'homme fait de ses constructions, mais toujours à la limite de la destruction. Le feu, c'est le paradigme justement de ces inventions qui sont à la limite de la destruction de l'homme.
Voilà. Mais d'ailleurs, on parle du feu nucléaire aussi.
Voilà, absolument, on parle du feu, l'arme nucléaire, mais à la fois le problème d'énergie aujourd'hui, ce livre, voilà, il s'intéresse également à ça, à l'évoque.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes sur Radion avec Gilles Tassard, notre invité, auteur de 600 degrés, un très beau livre de textes et de photographies paru aux éditions du Rouergue. Pour l'instant, on vous laisse en compagnie de Pauline Paris et Mamselle de Machin Chouette.
S'est mis sur 131 pour aller courir les cœurs dans les bars chics de Saint-Germain. Mamselle de Machin Chouette a passé l'âge d'attendre, et dès qu'elle franchit le pas du premier bar venu, au premier venu, elle dit: prends un petit verre, mon grand coquin, il est pour moi. Si je suis pour toi, prends-moi vite avant que je ne t'attrape. Tournons ensemble jusqu'au matin. Prends un petit verre, mon grand coquin. Tu sais que t'es bon à en crever. Et si je crève, je veux commenter où sont les hommes et le bon vin. Même celle de Machin Chouette s'est couverte de bijoux pour cacher que c'est sympande comme les poids d'une horloge. Mamselle de Machin Chouette voit bien que tout le monde rigole quand elle en prend un sous le bras, vend ses qualités pour lui vendre son cœur. Prends un petit verre, mon grand coquin, il est pour moi. Si je suis pour toi, prends-moi vite avant que je ne t'attrape. Tournons ensemble jusqu'au matin. Prends un petit verre, mon grand coquin. Tu sais que t'es bon à en crever. Et si je crève, je commenterai où sont les hommes et le bon vin. Même celle de Machin Chouette ne sortira plus le soir. Paraît qu'elle a bu un verre de trop. Pauvre vieille, va. Comment elle s'appelait déjà? Mamselle.
Vous écoutez l'émission Wagon Livre ce soir sur Radium. Nous parlons de l'ouvrage de Gilles Stassard, 600 degrés, paru et disponible chez les libraires. Ne commandez pas les livres sur Internet, faites vivre les librairies, allez feuilleter les ouvrages, allez les découvrir, laissez-vous tenter, et notamment par ce 600 degrés qui ne vous brûlera pas les mains, mais qui en tout cas échauffera votre curiosité intellectuelle et vous donnera l'envie de le feuilleter et de vous nourrir de ces textes érudits et passionnants, notamment sur les incendies, j'y reviens, concernant l'incendie de Rome, Néron, alors c'est vrai, c'est connu cette affaire, Néron est peut-être le premier grand pyromane qui a regardé avec un plaisir immense les flammes dévorer Rome, un peu comme Hitler regardera l'incendie du Reichstag dans une sorte de folie qui lui est propre. Il y a ce rapport au feu, effectivement, nourricier, qui permet à l'homme de transformer les aliments. Et puis, il y a des populations qui habitent sur des sites. Alors là, on revient à la menace volcanique. Ces peuples qui vivent avec cette peur du volcan qui peut, comme vous le disiez, Gilles, tout à l'heure, péter à tout moment, et qui, néanmoins, après une éruption volcanique, reconstruisent et restent sur place, refusent de changer d'environnement. Une sorte de passion et d'attachement à cette crainte, à ce feu peut-être nourricier et menaçant à la fois.
Oui, ça, c'est toujours étonnant de voir à quel point, notamment autour des volcans, les hommes sont nombreux. C'est-à-dire que le fait que la menace ne suffit pas. Aujourd'hui, vous avez Naples, c'est en face du Vésuve. Et on sait bien qu'un jour, il va se réveiller et ce sera compliqué pour ceux qui vivent au pied du volcan, mais non. C'est-à-dire que le volcan offre tellement aussi de fertilité, de fertilité des terres, des raisins, des grains, des vins. Voilà, ça vaut la chandelle, ça vaut le coup de prendre le risque que d'aller habiter sur les flancs des volcans.
Et cette question rhétorique, pourquoi ces gens sont-ils là, le cul bien assis sur un bâton de dynamite dont la mèche ne serait jamais éteinte? Et un peu plus loin, le volcan fascine, engendre la plus vive curiosité, charme à la manière du chant des sirènes. Oui. Alors il y a eu beaucoup de victimes, justement, ces hommes fascinés par les volcans. Bon, il y a Pline l'Ancien, Empédocle, dont on a retrouvé la petite sandale. Ouais. Vous parlez aussi, alors là je n'étais pas au courant, vous parlez des Hippocrates, qui étaient pourtant des gens vulcanologues, passionnés, et qui n'étaient pas des néophytes, qui néanmoins ont péri dans un nuage de gaz.
Dans une nuée ardente. Une nuée ardente, en fait, c'est une coulée de gaz.
Je crois que c'est presque 300 km/h, si je vous ai bien lu.
Qui défile, en fait, qui est expulsé du volcan, et en fait, qui, plutôt que de partir dans les airs, suit les flancs du volcan. C'est une espèce de vague de chaleur. Et ils étaient tellement fascinés par les volcans, ils passaient leur vie à aller voir les volcans. Les Kraft, c'est marrant parce que moi je les ai rencontrés, parce qu'en fait Maurice Kraft, il finançait toutes ses aventures en faisant des projections dans les cinémas, notamment des projections pour les étudiants, pour les écoliers. Et je me souviens qu'il était venu dans le cadre de ce qu'on appelle connaissance du monde. Il était venu à Avallon présenter ses films au cinéma, qui était le cinéma municipal d'Avallon. Et c'était très impressionnant. Il présentait tous ses films. Et on le voit marcher sur la lave. Donc ça, c'est peut-être un des souvenirs les plus anciens, justement en liaison avec le sujet, hein, l'un de mes souvenirs. Et donc quand ils ont eu leur accident, je crois en 92,
Juin 91, pardonnez-moi, j'ai pas de mérite, vous l'avez noté. Juin 91 au Japon.
Voilà, au Mount Zen. J'ai été vraiment très touché parce que je les avais vus, et après j'ai suivi, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits sur eux. C'est un couple qui, je crois, ils n'ont pas eu d'enfants, ils ont construit leur histoire d'amour et autour de leur passion qui était celle des volcans, et ils sont morts en voulant s'approcher du volcan, mais comme toujours, quoi. C'est-à-dire que il y a une parabole qui est très qui est très belle pour moi, de l'engagement, de que ce soit politique, que ce soit scientifique, que ce soit artistique. C'est-à-dire, à un moment donné, on donne sa vie, quoi.
Ah, carrément, vous êtes
je trouve,
jusqu'au boutiste à ce point.
Bah, je trouve qu'à un moment... Oui, vous voyez, hein, les grandes, les, on le voit politiquement aujourd'hui. Enfin, il y a quand même des hommes qui s'engagent.
Et vous, Gilles, vous voudriez mourir en train d'écrire devant un fourneau, devant un piano?
Non, mais bon, aujourd'hui, se consacrer à l'écriture, c'est se consacrer à l'écriture, à sa passion, à la transmission de cette passion, demande des sacrifices. Pas forcément celui de sa vie, mais demande des sacrifices.
Alors, vous parlez de passion, voilà. parlons d'amour, justement. Voilà. Alors, il est question du tango. Vous parlez même à un moment de la femme incendiaire.
Voilà, absolument.
Vous parlez d'une scène de danse dans un de vos récits. Je vous lis. Gilles Stassard, ces scènes lointaines de danse m'évoquèrent les propos du philosophe Gaston Bachelard, voyant dans le forêt à feu l'image de la copulation. Le frottement des sexes enflamme les corps comme le frottement d'une bûchette pointue contre une autre bien sèche fait naître la flamme. Les chocs de silex engendrent les étincelles puis les flammes. Cette image trouve une belle continuation dans le tango. C'était très audacieux aussi de parler de ce brasier amoureux qui peut nourrir toute femme et tout homme au début, parce que parfois les flammes s'éteignent un peu, les braises amoureuses parfois deviennent charbon froid, malheureusement, ou tant mieux, les histoires d'amour les plus belles sont peut-être celles qui se terminent un jour.
Bah oui, mais ça, vous savez, c'est le livre nous emmène en Argentine, l'Argentine est le pays du sport national de la grillade.
Oui, on va en
avec
parler.
Les asadors et les asados. Et en Argentine, l'Argentine, c'est aussi le pays de la passion et du tango. Et pour moi, le tango, c'est vraiment cette idée de la passion, quoi, de la flamme, de l'énergie. Quand vous regardez les danseurs de tango, il y a à la fois de l'érotisme, il y a beaucoup de composantes.
Expression corporelle, il y a un langage, il y a une sémiologie.
L'énergie du corps, ces corps, et puis ces corps mâles, ces corps femelles qui sont enlacés, mais à la fois, voilà, en même temps, il y a aussi, c'est vraiment l'idée de la passion et de l'approche, parce qu'il n'y a pas de consommation, en fait, dans le tango, quoi. C'est-à-dire qu'il y a juste c'est le feu du désir, quoi.
Voilà. Qui anime justement ses corps.
Qui anime ses corps.
Qui peut-être les transforme aussi un peu.
Absolument.
Échauffement des sens, des corps et peut-être de l'esprit ce soir avec 600 degrés, l'ouvrage signé de notre invité Gilles Stassard qui nous fait l'amabilité de répondre à nos questions dans Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h mercredi prochain. Je vous rappelle qu'à partir de 21h sur Radion, rétrospective des meilleurs moments de votre émission littéraire qui fêtera son 100e numéro. Ambiance tango avec Una Musica Brutal, voici Gotham Project, excellente soirée sur votre radio locale.
viene lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión.
Retrouvons Gilles Stassard, notre invité, auteur de l'ouvrage 600 degrés, disponible chez vos libraires aux éditions du Rouergue. Une partie de votre livre, Gilles Stassard, parle des gauchos. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler à nos auditrices et auditeurs ce que sont des gauchos.
Un gaucho, c'est un cow-boy d'Argentine en fait. Les gauchos, c'est aussi Certains trouvent dans le gaucho l'ancêtre du beatnik, quoi, de la beat generation. Le gaucho, c'est un branleur, en fait, qui a été répudié un peu par sa grande famille espagnole, qui a pris le bateau, qui se retrouve comme ça sur le nouveau continent.
Mais c'est un garçon bâché, en fait, ou c'est un mauvais
c'est
garçon
devenu
bâché,
un garçon
c'est un
bâché, voyou. C'est devenu un garçon bâché. Mais le gaucho est pas forcément... est quelqu'un qui... il travaille un peu quand il a besoin, mais il n'a pas vraiment besoin de travailler. Il se balade sur son cheval dans la pampa, il tue une vache comme ça, il mange 2-3 morceaux.
Alors jadis, il pouvait tuer une vache.
Voilà, oui.
Aujourd'hui...
Oui, non, mais le gaucho aujourd'hui, c'est comme les cowboys aujourd'hui. C'est
du folklore qui a
survécu. C'est du folklore. Mais à l'origine, dans les livres de Martin Fierro, le gaucho est un personnage comme ça qui est... c'est une légende, il se balade dans un environnement qui est il est le principal prédateur d'ailleurs dans cet environnement, c'est-à-dire et toute la nature lui apporte à la fois de l'espace, à la fois des herbages pour son canasson. C'est un homme libre, c'est vraiment l'ancêtre de Kerouac.
Alors je pense que les auditrices et auditeurs ont tous en tête l'image de la Pampa. Alors on y est avec vous et grâce à vous. Il y a les photographies, il y a le texte justement qui revient sur le mythe du gaucho qui aujourd'hui s'est effondré effectivement. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'en Argentine, l'art de la grillade est un sport national, écrivez-vous.
Ah oui, l'Asador...
N'est pas, comment dit-on, grillardin qui veut.
Voilà, absolument. L'art de la grillade, l'Asador, Asado, quoi, vraiment, est quelque chose qui passionne les Argentins. Ils ont des livres, ils ont des techniques, chacun ses trucs.
Oui, mais...
Ils font des... Ils font des, ils font des Ils ont des techniques très, très spectaculaires, comme celle-là auxquelles j'ai assisté, et dont les photos se retrouvent dans le livre, comme la Sado con cuero, c'est-à-dire on utilise le cuir avec le cuir, la grillade avec le cuir devient le récipient pour cuire comme ça l'animal.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que en fin de compte, il grille non pas une côtelette, mais il grille une vache entière.
Oui.
Utilisant donc le cuir de la vache, ça c'est extraordinaire, l'animal devient lui-même son propre récipient en quelque sorte.
Absolument, mais c'est extraordinaire. Ça c'est une technique des nomades que l'on retrouve aussi bien en Argentine que chez les Mongols, la technique de, justement où on utilise l'animal comme son propre récipient.
Donc les Mongols, ils le font par exemple sur les chèvres ou sur les chèvres, les marmottes.
Voilà, ça là. On utilise des pierres qu'on met à l'intérieur de l'animal et qui, comme ça, nous cuisent l'animal à l'intérieur. Et c'est des techniques, en fait, très sophistiquées. C'est des années et des années et des millénaires d'observation pour arriver à pouvoir mettre en place ces techniques.
Et puis c'est long parce qu'il semblerait, d'après les chiffres que vous communiquez dans votre ouvrage, Gilles Stassard, dont je rappelle le titre, hein, 600 degrés aux éditions du Rouergue, c'est que la cuisson d'une vache avec le cuir, hein, donc asador con cuero, c'est 12 heures de cuisson.
Oui, c'est 12 heures de cuisson, absolument.
Donc il faut se relayer, c'est une
C'est d'ailleurs toute une nuit à passer autour du feu, à boire du maté. Et écouter les gauchos chanter.
Mais vous dites que d'après Pline, les Scythes, qui étaient quand même connus pour être un peuple barbare et sanguinaire, cuisinaient leurs prisonniers dans leurs propres estomacs.
Ouais.
Bon appétit.
Ouais, c'est ça, c'est bien. Ouais. Il faut l'idée de. On utilise souvent les panses. La panse de brebis, c'est quand même utiliser l'estomac pour manger la brebis, quoi.
Alors, les Écossais, c'est ce que font les Écossais.
C'est ce que font les Écossais, ouais. Bah, après aussi, l'andouillette, d'une certaine façon, c'est un peu ça, quoi.
Oui.
Ouais, c'est ça.
À un moment, dans le livre, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce va-et-vient entre des pratiques anciennes, ou que nous, occidentaux, confient dans notre modernité, et il faut l'avouer aussi parfois dans notre bien-pensance. Nous observons donc ces pratiques ancestrales que vous nous décrivez, que vous nous expliquez, comme une sorte d'art de vivre, effectivement. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que vous nous dites, mais dites donc, oh là, vous êtes une sorte de bonne conscience, ou en tout cas, vous dites donc, imaginez une grande panne d'électricité et le retour au feu pour tout le monde, faites tout fonctionner au feu. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce qu'on rentre chez soi, d'un clic, tout fonctionne. Le four micro-ondes, le four électrique, la bouilloire électrique. Et vous nous invitez parfois aussi. Je me demande même si vous n'aimeriez pas qu'on recoupe un peu le bois et qu'on ait un petit four à bois et qu'on essaie de se remettre une sorte d'éloge un peu du feu à bois.
Ouais, je sais pas si c'est une éloge de la rêverie qu'il y a à travers la flamme d'un autre rapport au monde. C'est-à-dire que l'électricité, c'est quand même formidable, c'est la même chose, hein. c'est un feu, mais je dirais que c'est un feu qui est régi par d'autres règles, plus les règles du progrès, les règles du profit aussi, les règles du marché, je dirais, voyez. Donc
Gilles Stassard, vous vouez une admiration pour le four, quand vous le décrivez, dans sa profondeur, dans le mouvement circulaire des flammes, dans les couleurs, dans la beauté de la brique et dans l'efficacité de ce trou, de cet orifice, de cette galerie qui sert à cuire l'aliment. Vous êtes comme ça, ce rêveur, cette esthète des objets qui n'ont pas qu'une fonction utilitaire, mais qui sont aussi finalement de beaux objets qui nous ramène aussi à nos origines, ce feu dont l'homme a eu tant besoin.
Le four, surtout, vous parlez de... Les fours sont assez fascinants, c'est des lieux de transformation des matériaux, alimentaires, mais pas seulement, la poterie aussi, c'est la sidérurgie... Il y a quelque chose de aujourd'hui avec toutes ces histoires d'aciérie, de Monsieur Mittal, on est en plein dedans encore. C'est-à-dire que la France ne doit pas perdre ses derniers hauts fourneaux parce que c'est, c'est un rapport avec le avec le avec l'industrie, avec le mais quasiment avec l'industrie low-tech. C'est la même chose qu'avec la transformation de la terre en peau, vous voyez. Perdre ce dernier fourneau, il est pas tant économique que symbolique. Ce serait perdre vraiment le dernier lien qu'on peut avoir avec le monde. C'est-à-dire que la France va devenir un pays de services, un pays d'internet, un pays d'assurance, mais qui n'aura plus les moyens de transformer les matériaux, de transformer aussi son alimentation. Bientôt, on mangera tous en ouvrant des sachets.
Juste ça, quand vous craquez une allumette, par exemple, que vous tournez le bouton pour allumer le gaz, vous avez à l'esprit cette réflexion que vous livrez à la page 122 de votre livre. Chaque cuisinier, en allumant son feu, exécute un geste universel qui sauve la vie.
Ben oui. À chaque fois que j'allume le gaz, je suis super...
Vous l'avez systématiquement, cette réflexion?
Bah, quand j'ai du feu, je suis content. Parce que là où je travaillais, j'étais avec l'électricité. C'était marrant parce que dans le rapport au feu électronique, en fait, la quantité de feu est donnée par le nombre de bips. C'est-à-dire que vous faites bip, 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 et voilà, vous voulez faire plus fort le feu... C'est encore des bip bip bip, et puis vous avez un chiffre. 8, 9. 9 c'est fort, 1 c'est faible. Donc le feu a été. Le feu en fait est devenu. Il est assez virtuel dans le rapport avec le feu électrique. Alors que quand le cuisinier allume et met du feu au gaz, il voit la flamme. Donc il a un rapport direct, il a un rapport instinctif. Et quand j'ai la chance d'avoir du gaz et du feu pour cuisiner. Je suis dans cette chaleur de la vie, en effet.
Chaleur de la vie, chaleureuse conversation ce soir sur Radio Navec, Gilles Stassard, que nous retrouvons dans une poignée de minutes. Voici France Gall, où tu iras, j'irai.
Des moments si beaux qu'on voudrait y croire. Quand on veut les saisir, quand on sait les voir. Et puisqu'il faut vivre, être ensemble ou se suivre, c'est beaucoup plus fort. Je suis peut-être celle qui te fermera les yeux. Peut-être qu'on se croise pour un instant ou deux. Dans ce qui nous entoure, il y a tellement d'élan d'amour qui se perdent. C'est un volcan qui gronde. Là, là, c'est un rêve qui s'en va. Là, là, un homme qui sort de l'ombre. Là, là, et se bat. Là, là, on s'écroule sous le nombre. Là, là, mais les enfants sont rois. Là, là, on est au bout du monde. Je suis l'eau quand tu voudrais le feu. Peut-être qu'on est seul, même quand on est deux. Et quand tout semble possible, partager l'inaccessible, c'est beaucoup plus fort. Une passe.
passion qui sombre. Là, là, on fait des feux de joie. Là, là, on veut refaire le monde. Là, là, on y croit. Là, là, c'est la force qui tombe. Là, là, et fait régner sa loi. Là, là, la colère et la fronde.
Je rappelle que nous parlons de l'ouvrage de Gilles Stassard, 600 degrés, disponible aux éditions du Rouergue. Hein, le feu nous anime complètement ce soir. Un petit mot peut-être de Laurent Le Grillet.
Ah, Laurent Le Grillet.
Expliquez à celles et ceux qui nous font le plaisir de nous accueillir ce soir sur leur transistor ou qui nous écoutent par internet sur le www.radion.fr. Expliquez-leur, s'il vous plaît, Gilles, qui est Laurent Le Grillet.
Alors, Laurent Le Grillet, c'est Saint-Laurent, en fait. Parce que Saint-Laurent est le patron des archivistes, puisqu'il s'occupait, en fait, il était archidiacre et il travaillait aux archives de Rome. Mais aussi, du fait de son martyr, c'est le patron des rôtisseurs, puisqu'il a été martyrisé sur un lit de braise, voilà, et qu'il a même... Il a même conseillé à son punisseur de le faire griller sur les deux faces et de le manger. Donc ce qu'on retrouve ça dans
une fin très eucharistique.
Une fin absolument eucharistique, absolument sadomasochiste à souhait, délicieuse.
Alors il y a, c'est vrai, des textes consacrés aux martyrs où l'on voit que effectivement, si l'homme a eu très rapidement conscience du pouvoir nourricier du feu et l'a aussi utilisé pour torturer les chairs humaines. C'est aussi abominable.
Absolument.
Mais partir des chrétiens.
Voilà, voilà.
Les torches humaines.
Ça, absolument. C'est à la fois le feu, c'est le feu de la destruction, c'est le feu de la brûlure. Distribué par le punisseur, mais aussi distribué aussi dans un rapport quasiment étonnant.
Gilles, certains cuisiniers, j'imagine, ont dû porter un regard curieux, intrigué, face aux photos, modes de cuisson de ce livre. Marc Menot, est-ce que Marc Menot a feuilleté votre livre 600 degrés?
Ah oui, bien sûr, je lui ai envoyé le livre qu'il a bien reçu et donc il m'a dit qu'il était en train de m'écrire une lettre pour me faire le commentaire de ce livre et donc j'attends sa lettre.
Voilà. Et donc il y a aussi des paysages, hein, des sources d'eau chaude, des geysers, tout simplement en fait.
Ah oui, absolument. Hein, c'est ça, hein. Des geysers, voilà.
Alors aussi des viscères.
Voilà, voilà, ouais.
Voilà. Bon, des photos qui surprennent, mais qui rappellent finalement que ces peuples lointains, utilisent le feu pour se nourrir. Comme
absolument,
nous,
absolument.
C'est donc 600 degrés, c'est le livre de Gilles Stassard. On rappellera donc le nom du photographe.
Donc c'est Hans Gesinger.
Et d'après des recettes.
Des recettes et d'après le restaurant en fait de Frank DeCarlo, Peasant, qui est un restaurant à New York, 194 Elizabeth Street, un restaurant où je vous recommande d'aller puisqu'il fait tout au feu de bois. Et donc c'est intéressant d'ailleurs, un restaurant en plein New York où tout est cuisiné avec du feu, du charbon de bois, avec des flammes quoi, en plein New York.
Des flammes qui grillent des cochons,
voilà,
de lait,
voilà.
Notamment 600 degrés, donc c'est le titre de l'ouvrage de Gilles Stassard, livre disponible aux éditions du Rouergue. Et Gilles, merci d'avoir été notre invité parce que l'émission touche à son terme et merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous, merci.
Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Notre rendez-vous touche presque à sa fin. N'oubliez pas que ce mois de janvier est aussi le cadre d'une rentrée littéraire parfois aussi riche et intéressante que celle de l'automne. On signalera des romans totalement nouveaux, signés Yasmina Reza, un roman de l'écrivain et rédacteur en chef adjoint du magazine Géo, Jean-Luc Coatalem, le dernier roman d'Emmanuel Bernheim, qui est d'ailleurs consacré à un thème d'une grande actualité, puisque son roman intitulé « Tout s'est bien passé » aux éditions Gallimard évoque le cas assez délicat de l'euthanasie légale. C'est le dernier roman donc d'Emmanuel Bernheim. Et puis il y a plein de nouveautés sur les rayonnages de vos libraires, des romans de Marie Nimier, de Caroline Pascal, d'André Imakine, de Christian Garcin ou d'Alain Maboncou, de Julie Wolkenstein ou de Christian Oster. Tout ceci à découvrir, pas seulement dans la presse, mais aussi auprès de vos libraires qui restent, je le rappelle, les seuls vrais professionnels du livre. Plus proche et plus accessible, nous vous informons que Jean-Paul Rousseau, l'auteur des Oies du Capitaine, disponible aux éditions Rhubarbe, et que nous avons reçu un petit peu avant Noël dans notre émission, eh bien Jean-Paul Rousseau sera en dédicace le samedi 19 janvier prochain à 19h30 à la librairie Oblique au 68 de la rue Joubert, et c'est à Auxerre, donc Jean-Paul Rousseau le 19 janvier prochain à la librairie Oblique. Du côté de Saint-Florentin, l'association Les Après-midi de Saint-Flo organise ses 6e concours littéraires de poésie et de nouvelles. Le thème est totalement libre pour les poèmes, en revanche pour les nouvelles, le thème retenu est repas de famille. Alors le concours s'achève le 16 février prochain. Vous pouvez vous renseigner sur le blog des Après-midi de Saint-Flo. Ou alors, vous téléphonez au 09 77 90 36 06 pour plus d'informations et notamment pour s'inscrire, comment faire parvenir ces textes. Je rappelle le numéro de téléphone 09 77 90 36 06. Et puis, une exposition, c'est jusqu'au 31 janvier prochain. C'est à l'annexe de l'Office de Tourisme, au numéro 7 de la place de l'Hôtel de Ville. Eh bien, l'association Colliambe présente des poèmes illustrés. C'est du mardi au samedi de 10h à midi et de 13h30 à 18h jusqu'à 18h30 le samedi. Donc c'est aux 7 places de l'Hôtel de Ville à Auxerre jusqu'au 31 janvier prochain, des poèmes illustrés de l'association Colliambe. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Je rappelle que vous pouvez retrouver après diffusion les émissions Wagon Livre sur le site internet de Radion dans la rubrique podcast. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux Wagon Livre Yannick Petit. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 16 janvier, toujours à partir de 21h, pour un 100e numéro de votre émission littéraire, une grande rétrospective au cours de laquelle on essaiera de vous faire revivre du mieux que nous le pourrons un certain nombre de moments des 100 numéros de Wagon Livre, votre émission littéraire installée sur Radion depuis novembre 2010. On vous souhaite une excellente fin de soirée, on vous remercie de votre intérêt et de votre fidélité. Bonne soirée une fois de plus et au plaisir de vous retrouver mercredi prochain. Au revoir à toutes et à tous. Do you love me too? Do you love me too? I love you. Do you love me too? Do you love me too? I love you.